RCF. Le temps de le dire, rediffusion.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette émission, le temps de le dire, gros plan sur la situation de l'hôpital public. Sporadiquement, nous entendons parler des hôpitaux. Une fois, il est question de sages-femmes en colère, une autre fois d'urgentistes à bout, une fois encore d'infirmières qui n'en peuvent plus des cadences, de la perte de sens et de l'absence de considération. Et puis chacun d'entre nous a de près ou de loin fréquenté, comme patient, comme proche, cet univers hospitalier. On a pu se sentir bien accueilli, bien écouté, bien soigné ou traité comme un numéro, un organe, une pathologie. L'hôpital va mal et ce mal-être ne date pas d'hier. Dans l'air flottent les mots de logique, voire même de dérive comptable, de protocole thérapeutique, de statistique, de groupe homogène de malades, j'ai appris ça, de tarification à l'acte, des termes techniques pour endiguer des dépenses exponentielles, mais des termes techniques qui ont fini par surplomber l'urgence d'une politique publique de santé où chaque patient et chaque soignant sera une personne respectée et accompagnée. Alors c'est le temps de le dire, état de crise à l'hôpital, on en parle ce matin comme tous les jours. Vous avez la parole, venez nous parler de l'hôpital tel que vous le regardez, tel que vous le voyez, tel que vous le connaissez aujourd'hui, que vous soyez un usager ordinaire de l'hôpital public ou que vous soyez plus particulièrement intéressé comme soignant ou comme travaillant à l'hôpital. Alors le téléphone, vous le connaissez, 04 72 38 20 23 et le mail letempsdedire@rcf.fr.
Toute la vie en question sur RCF.
Et trois invités dans cette émission, le temps de le dire. David Béliard, bonjour.
Bonjour.
Je commence à vous parce que c'est vous qui nous avez soufflé cette idée d'émission. Vous êtes journaliste à Alternative Économique, un mensuel de vulgarisation pour l'économie, c'est ça ?
Oui, c'est ça, économie et sociale.
Économie et société, voilà. À lire, hein, et pas seulement les étudiants. Et Alter Echo, pour les intimes, qui sort régulièrement des hors-séries. Le dernier s'appelle Santé, l'état d'urgence, avec beaucoup de questions, et entre autres celle de l'hôpital. Et
effectivement, l'hôpital, c'est un des points de la crise que connaît notre système de santé. Il est un peu le révélateur hein, médiatique, on en parle beaucoup. Mais c'est un des éléments, en tout cas, de la crise que connaît notre système de santé et qu'on évoque dans le hors-série poche de l'alternative économique. Mais je crois qu'on va en parler, puisque parler d'hôpital, c'est parler de l'ensemble de notre système.
Et puis, vous êtes aussi l'auteur d'un livre, un petit livre publié chez Textuel, c'était il y a 2 ans.
Tout à fait.
Ça s'appelle « Notre santé est-elle à vendre ?» et 25 autres questions que tout le monde se pose sur la santé. Là aussi, c'est très très accessible, très pratique et ça donne une bonne idée des questions qu'il faut se poser pour interroger le monde de la santé. Merci beaucoup David Béliard d'être avec nous aujourd'hui. Autre invité dans cette émission, Nicolas Bellorget, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sociologue, vous êtes chercheur au CNRS, vous avez écrit votre thèse sur la question de l'hôpital et puis comme cette thèse était brillante, vous avez réussi à l'éditer, donc divisé par deux pour qu'on puisse la lire quand même. Ça s'appelle « L'hôpital sous pression, enquête sur le nouveau management public ». C'est publié aux éditions de La Découverte. Alors, le nouveau management public, je pense qu'on va en reparler longuement dans cette émission.
Tout à fait.
Mais en deux mots, pour qu'on puisse bien comprendre ce que c'est que ce nouveau management public. C'est un truc qui nous vient d'outre-Atlantique, c'est ça ?
Ça vient d'outre-Atlantique et d'outre-Manche. Et en français, c'est le mélange du service public et du management, c'est-à-dire de la gestion. Donc, c'est l'importation des méthodes utilisées dans les entreprises, dans le secteur public.
Mais pour plus d'efficacité ?
C'est l'idée, c'est le principe. Alors, c'est la théorie, on pourrait dire. En pratique, c'est pas toujours le cas.
En pratique, c'est plus compliqué. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Bellorget. Et puis, pour parler de l'hôpital, eh bien, il nous fallait bien un praticien hospitalier, Bertrand Galichon, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes médecin urgentiste, il faut bien parler dans le micro, médecin urgentiste, vous travaillez aux urgences de l'hôpital Lariboisière, qui est un hôpital parisien. Vous êtes aussi le président du Centre catholique des médecins français, peut-être que vous pourrez nous en dire un petit mot. Mmh. Et puis vous êtes l'auteur d'un blog qu'on trouve sur le site internet de lacroix.com qui s'appelle Chronique d'une blouse blanche.
Voilà.
Vous faites partager votre regard, pas que sur l'hôpital, mais aussi sur de nombreuses questions d'éthique. J'invite les auditeurs à aller regarder ça de près. Un petit mot sur le Centre catholique des médecins français.
Alors, le Centre catholique des médecins français, c'est une vieille dame qui est née en 1884 à Solesmes, qui a eu ses heures de gloire, qui à l'heure actuelle, avant s'appelait les sociétés Saint-Côme, Saint-Luc, Saint-Côme et Saint-Damien, et est devenu en 60, dans le début des années 60, le Centre catholique des médecins français. Voilà, a eu ses heures de gloire au moment des années 70, et puis à partir de 70, l'association a des difficultés pour vivre et être
aujourd'hui
présente. Et aujourd'hui, c'est un vaste sujet.
L'idée, c'est un lieu de réflexion pour les médecins.
C'est un lieu de réflexion, en fait. C'est un lieu de réflexion. On a une revue qui s'appelle Médecine de l'Homme. Et le but du jeu, c'est d'être un lieu de réflexion, un lieu d'information pour les médecins sur les questions éthiques et les questions professionnelles.
C'est intéressant de vous avoir, parce que comme médecin urgentiste, on aura aussi l'occasion d'en reparler. Je pense que j'ai l'impression que les urgences concentrent tous les maux de l'hôpital aujourd'hui. Voilà, trois invités avec nous. Merci beaucoup Bertrand Galichon, David Béliard et Nicolas Bellorget de nous éclairer sur ce qui se passe à l'hôpital. Et puis c'est une émission interactive, le temps de le dire. Donc comme tous les jours, vous avez la parole. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23 ou par mail le temps de le dire @rcf.fr.
Vos questions, vos réactions au 04 72 38 20 23.
Alors, j'ai appelé cette émission « Hôpital, état de crise ». N'est-ce pas un titre du journaliste ? N'est-ce pas exagéré ? Donc, je voudrais faire un premier tour de table pour vous demander si, personnellement, vous pensez que cet hôpital est vraiment en situation de crise. Alors, docteur Bertrand Galichon.
Alors j'aurais une réponse un peu à l'encontre de votre projet, c'est de dire qu'en fait je pense que la crise est nécessaire. Mmh. Voilà, à partir du moment où une institution, quelqu'un ou qui que ce soit n'est plus en crise, il n'est plus en mouvement. Donc je pense que la crise est absolument nécessaire.
Donc c'est un passage obligé.
C'est pas un passage, c'est un état obligé pour pouvoir avancer et être toujours le plus ajusté possible à la demande et aux contraintes.
Bon alors je vais utiliser un autre mot. Est-ce que ça va si bien que ça à l'hôpital?
Non, pour une raison simple, c'est que en fait, on est à... Alors, moi, je parle d'un hôpital, à partir d'un hôpital universitaire parisien. Je ne suis pas un hôpital général de province, et donc les contraintes ne sont pas les mêmes, les demandes ne sont pas les mêmes.
Alors ça, c'est une invitation pour les auditeurs qui seraient dans des hôpitaux de province de nous appeler pour témoigner.
Voilà. Donc voilà d'où je parle. Le problème, c'est que j'avais fait un petit blog là-dessus de... La crainte que l'hôpital ne perde son chapeau, le chapeau du haut de l'hôpital, qui renvoie le petit chapeau, l'accent circonflexe, renvoie à la notion d'hospitalité. Et donc, le gros problème de l'hôpital à l'heure actuelle, c'est d'être à la limite entre le médical et le social. Et en particulier aux urgences, nous, c'est quelque chose que nous vivons en permanence, en particulier à la Réboisière, c'est donc pour nos auditeurs, c'est à la Gare du Nord, c'est dans un coin sociologique particulier de Paris, et où on
avec
a
beaucoup
une...
de pauvreté, beaucoup
voilà,
de
on a une file active d'SDF et de migrants plus ou moins clandestins importante, et donc la présence du social est extrêmement importante. Donc c'est une question qui est prégnante aux urgences. Ce qui nous interroge surtout, c'est de pouvoir repérer ces nouveaux pauvres. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont un travail, mais qui sont dans une situation de précarité, aussi bien sur leur contrat que sur leur logement. Et là, on est sur une population extrêmement fragile qui ne se montre pas et qui ne veut pas se montrer. Et là, il y a effectivement une crise, parce que je ne sais pas si l'hôpital est à même de pouvoir répondre à leurs questions.
Mais finalement, ce mélange du médical et du social, on en revient aux hospices du XVIIIe siècle, c'est ça ?
Se pose la question de la pertinence de l'hospice à l'heure actuelle. Je veux simplement prendre, pour exemple, l'importance de la pathologie psychiatrique chez les SDF. Alors bon, il y a des luttes d'experts sur les chiffres, mais enfin, ils sont quand même très, très importants. Et il y a une partie de ces SDF qui n'ont rien à faire dans la rue, parce qu'en fait, ce sont des malades. Voilà, donc la notion d'hospice est quand même extrêmement importante. Et je me demande s'il ne faut pas remettre ça au goût du jour.
Donc la crise est nécessaire, elle est importante, mais en même temps, il y a quand même des soucis avec cette question entre la confluence entre du médical et du social. Alors, je continue mon petit tour pour vous demander à vous si vous pensez qu'il y a une crise, qu'est-ce qui va commencer ? Allez, David Béliard, est-ce que vous, ce crise, vous le reprenez ?
Moi, je le reprends. Alors, je vais pas faire l'exégèse du mot crise, même si j'entends ce que vous dites. Nous, on a parlé d'état d'urgence pour le numéro. Moi, je crois que si je devais donner une idée dans cette première intervention, c'est que l'hôpital public, il est victime des politiques publiques. Il est victime de certains choix qui ont été faits par des responsables politiques durant ces 15-20 dernières années. Alors, je pense que Nicolas Bellorgé va en parler avec la tarification à l'activité, avec la modification en fait des modes de management au sein de l'hôpital public sous prétexte d'efficacité, et on voit que ça aboutit à des effets contre-productifs au niveau de l'hôpital, à une grande pressurisation des patients, des personnels soignants. Mais il y a aussi, je crois, une dimension plus générale sur les choix qui sont faits sur notre système de santé en général. Parler de l'hôpital, c'est aussi parler des soins de ville et notamment de la manière dont ils sont remboursés. Alors, pas trop de chiffres.
Donc l'articulation entre médecine de ville et médecine hospitalière,
c'est-à-dire médecine de ville lorsque vous allez à un cabinet généraliste ou un cabinet spécialiste à côté de chez vous. Et donc avant d'aller à l'hôpital finalement. Et là on voit bien qu'il y a des choix qui ont été faits par les financeurs et par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, les soins de ville, ils sont remboursés à 65%. C'est-à-dire que, ils sont en dessous de 50% pour certains soins, mais en moyenne, c'est 65% de remboursement.
Et il faut avancer.
Et évidemment, ou alors il faut avoir une complémentaire santé. Ce qui fait que cette baisse, en fait, de remboursement fait qu'un certain nombre de personnes ne peuvent pas accéder à ces soins de ville et se reportent sur l'hôpital qui, lui, reste encore remboursé à plus de 90%. On le voit bien, notamment à l'hôpital public, lorsque vous allez aux urgences, vous ne payez rien et l'hôpital a pour obligation, et c'est un service public et c'est, je crois, un des grands atouts de notre système, il soigne tout le monde sans distinction, notamment de revenus. Et donc vous voyez bien que si une partie de la population ne peut plus accéder à des soins courants parce qu'ils sont mal remboursés, ils se reportent sur l'hôpital et notamment sur les services d'urgence qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans ces services d'urgence qui ne devraient pas y être.
Donc on rejoint l'idée du docteur Bertrand Laguialichon, des questions médicales qui rejoignent des questions sociales, ou des questions sociales qui rejoignent le médical.
Oui, c'est un des points, mais aussi des questions médicales qui pourraient être traitées en amont par les soins de ville. Parler de l'hôpital, encore une fois, c'est parler de l'ensemble, des soins en amont et des soins aussi en aval, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure.
Donc bien crise pour vous. Dernier intervenant, Nicolas Bellorgé. Alors vous, il y a crise ou pas ?
Alors, quand on parle de crise, quand certaines personnes parlent de crise, ça veut dire que pour elles, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça serait aveugle de vouloir nier le phénomène, de dire que il n'y a pas des problèmes quelque part. Ensuite, il faut surtout préciser desquels il s'agit, parce que le terme de crise est utilisé à toutes les sauces, et parfois pour dire le contraire de ce que voulaient dire les premiers à l'avoir employé. Alors, en ce qui concerne plus précisément l'hôpital, pour comprendre la situation, à mon avis, si on prend un petit peu de recul historique et qu'on regarde en détail les pratiques, on retrouve les deux logiques dont vous parliez, docteur, à la fois sociale et médicale. Et même plus précisément, on peut trouver trois logiques, à mon avis, à l'hôpital. Il y a d'abord une logique, celle que vous appelez hospitalière, qui est d'enracinement dans un territoire et qui consiste à traiter toutes les demandes qui vont s'adresser à l'hôpital. Donc aujourd'hui, vous parlez des SDF.
Qu'on soit à Gare du Nord ou qu'on soit au fin fond de la Creuse.
Ou dans un petit hôpital de province, effectivement, ça marche complètement. Et aujourd'hui, c'est la dimension qu'on pourrait appeler, qui est le plus mise à mal par la politique actuelle. La deuxième logique, c'est une logique de financement, parce que cet hôpital, il ne fonctionne pas tout seul, il vient de quelque part, il est financé par une collectivité qui s'est dotée d'un hôpital de manière contingente, qui n'était pas obligée de le faire et qui peut le financer à un niveau plus ou moins élevé. Et aujourd'hui, une grande partie des politiques qui sont mises en œuvre à l'hôpital le sont pour des raisons financières. C'est-à-dire, il faudrait réduire les dépenses hospitalières. On pourra en rediscuter plus avant tout à l'heure. Et donc, cette injonction entre en contradiction avec la première logique. Troisième logique, qui est particulièrement présente, par exemple, à la Riboisière, puisque c'est un CHU, il fait partie de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, c'est la logique de spécialisation dans la recherche médicale qui a permis historiquement et qui permet encore aujourd'hui de faire des progrès dans la médecine, des progrès dans la façon de soigner les gens. Donc c'est une logique qu'il ne faut pas non plus du tout négliger. Et elle se traduit concrètement aujourd'hui, notamment par la division des hôpitaux en différents services de spécialité, par le fait que la médecine hospitalière tend à se spécialiser énormément, et que donc du coup, si un SDF frappe à la porte du service, eh bien quelque part il va déranger cette troisième logique, parce que il ne représentera pas juste un organe en mauvaise santé qu'il s'agit de soigner indépendamment de l'ensemble de la personne, ce qui est la logique de spécialisation scientifique. Et donc ces trois logique se mélange et c'est quand on parle de crise c'est surtout la première qui se trouve principalement en crise aujourd'hui.
Donc la dimension d'accueil et d'hospitalité, on en revient toujours à ça, de l'hôpital.
Absolument, oui.
Vous voulez réagir, Bertrand Galichon, à ce qui vient d'être dit?
Oui, vous prenez l'exemple du SDF qui dérange un peu tout le monde parce qu'il est inattendu, il n'est pas propre et il arrive avec... Il n'a pas pris rendez-vous, il arrive avec toute une pathologie et puis il faut quand même savoir que la durée moyenne de séjour d'une personne de ce type-là est de 50% supérieure à celle d'un patient dit « normal » entre guillemets. Il y a une autre population aussi qui nous pose problème, c'est les personnes âgées. Et les personnes âgées qui arrivent aussi avec un paquet de problèmes sociaux, de problèmes médicaux, parce qu'il y a une polypathologie qui est là, qu'il faut prendre en compte. Ce qui fait que, par exemple, Madame Bonnet qui arrive pour une poussée d'insuffisance cardiaque, les cardiologues vont tordre un peu le nez de la prendre en charge parce que il y a d'autres choses à gérer à côté. Il y a l'aide ménagère, il y a le problème de constipation, il y a les problèmes d'occlusion. Enfin, j'en passe des meilleurs. Et donc, effectivement, cette spécialisation fait que, finalement, un service hospitalier, un hôpital, va prendre en charge une pathologie, mais pas obligatoirement une personne. Mmh. Et c'est cette... je pense que si on devait définir la crise de l'hôpital à l'heure actuelle, c'est justement, elle se joue à ce niveau-là. Entre « je sais prendre en charge une pathologie », mais je ne connais pas suffisamment mon patient pour le prendre en charge globalement. Et donc, il y a cette logique entre un savoir qui se veut scientifique et une pratique qui n'est pas scientifique.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il manque de médecins généralistes à l'hôpital?
Non.
Non.
Non, je ne dis pas ça. Le médecin généraliste, il est, pour reprendre votre expression, il est dans un terroir. Il connaît l'environnement dans lequel sont ses patients et dans lequel il vit. Le médecin généraliste, il connaît les tenants et les aboutissants, il connaît l'intérieur, l'habitat du patient, il connaît la famille. L'hospitalier ne connaît pas tout ça. Donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger les gens.
Donc, le souci, c'est ce que disait David Belliard, c'est l'articulation entre la médecine de ville et la médecine hospitalière.
Tout se tient, c'est évident.
Le temps de le dire, toute la vie en question sur RCF.
C'est le temps de le dire, l'hôpital public est-il en crise? Oui, non, nous en parlons ce matin avec mes invités, le docteur Bertrand Galichon, le journaliste David Belliard et l'universitaire Nicolas Bélanger. Comme tous les jours, vous avez la parole, vous n'hésitez pas à intervenir. Béatrix est au standard ce matin. Vous pouvez interpeller mes invités, témoigner, réagir à leurs propos ou poser des questions bien concrètes. N'hésitez pas, soyez les bienvenus. Le téléphone, je vous le rappelle, 04 72 38 20 23 ou le mail, le temps de le dire. @rcf.fr. Alors, depuis tout à l'heure, on évoque ce management public, ce nouveau management public, on parle d'une loi. J'aimerais bien qu'on précise les choses. Alors, moi, j'ai un peu travaillé la question pour ce matin. Donc, cette loi, elle date de 2003, si j'ai bien compris. Donc, elle a plus de 10 ans maintenant. Elle s'appelle HPST, ça j'adore. Hôpital, patient, santé, territoire, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit et pourquoi elle a autant dérangé, elle dérange autant encore, Nicolas Bélanger?
Alors, plutôt que d'une loi, j'aurais tendance à parler d'un ensemble de mesures législatives, réglementaires, quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, en quelque sorte. Je parlerais d'une politique publique en général qui a été défendue avec de petites nuances par les gouvernements qui se sont succédés depuis 20-30 ans à peu près.
Donc c'est ni une affaire de gauche, ni une affaire de droite, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ?
De gauche et de droite au sens politique, si, à mon avis. Disons que les gouvernements qui se sont succédés depuis 30 ans ont fait preuve d'une certaine continuité à ce sujet.
D'accord. Je vois David Bédard qui fronce ses sourcils, il nous fera la nuance tout à l'heure. Continue Nicolas Berger.
Alors, cette politique, on ne peut pas la désigner d'un seul terme, ça serait beaucoup trop réducteur, mais on peut dégager dedans des espèces de leitmotiv, des éléments qui reviennent tout le temps, et c'est notamment une forme d'économicisation d'un service public.
Qu'est-ce qu'on entend par économicisation ?
C'est-à-dire d'introduction d'outils...
De mesures économiques ?
De mesures, de raisonnement économique, là où auparavant on raisonnait de manière différente, par exemple en termes de services publics. Donc un terme qui revient très souvent dans l'histoire, c'est l'efficience. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? D'où est-ce que ça sort ? C'est souvent employé par les gestionnaires hospitaliers. Et donc, je vous propose de creuser un petit peu ça. Alors, au départ, en français, on dit productivité. Productivité, c'est quoi ? C'est tout simplement le rapport entre ce qu'on produit et les moyens utilisés pour le faire. Donc, à première vue, c'est une notion qui ressemble du bon sens, qui ressemble à du bon sens. Si vous soignez un patient, si vous pouvez le faire avec une seule infirmière, par exemple, eh ben, ça sera mieux de le faire qu'avec deux infirmières. Ça réduit les gaspillages.
Donc, si c'est avec une seringue au lieu de deux seringues, ça peut parfois être dangereux, c'est ça ?
Voilà, alors, là, vous allez plus vite que moi.
Excusez-moi. Je vous ai perturbé là.
L'idée de cette politique, c'est de faire des économies à l'hôpital, quoi, en fait. Et donc, on va promouvoir ces gains de productivité, on va faire la chasse au gaspillage. Mais très vite, les hospitaliers vont s'opposer à cette démarche en disant, eh ben voilà, il y a des fois où il faut deux seringues, où en utiliser qu'une, c'est dangereux. Et donc les pouvoirs publics vont modifier leur stratégie en quelque sorte, convaincus du bien fondé de leur démarche. Ils vont dire non, on ne fait pas du tout de la productivité, nous sommes là uniquement pour améliorer la qualité. Et donc le terme de productivité qui passe très mal en termes de communication dans le milieu hospitalier, vous me confirmerez ou pas docteur, est banni en quelque sorte des registres de discours et remplacé par celui d'efficience, qui fait beaucoup mieux, ça vient de l'anglais « efficiency ». Et en fait, au fond, et c'est un peu confondu parfois avec efficacité, alors que, en fait, ça n'a rien à voir avec l'efficacité. Et même très souvent, ce qu'on observe, ce qu'on a observé depuis longtemps en Angleterre, pays qui nous a devancé en la matière, en matière de politique hospitalière, ça consistait à faire facialement une amélioration de l'efficience, à faire en pratique une dégradation de la qualité des soins, ce qui permettait effectivement de faire des économies. Voilà, je suis peut-être un peu abstrait.
Non, Bertrand Galichon, comment le praticien hospitalier que vous êtes, vous partagez cette analyse ? En même temps, il faut quand même faire des économies ?
Faire des économies, c'est absolument obligatoire parce que je vois, dans le service, on est en train de tout refondre parce qu'il y a des travaux obligatoires qui doivent être faits parce que notre activité a terriblement augmenté. Et donc, on est en train de revoir toutes nos façons de faire pour prendre en charge les patients et les circuits de prise en charge des patients. Donc, je crois que la productivité, je pense qu'elle est nécessaire. Je pense, je vais dire quelque chose de tout à fait iconoclaste, mais je pense qu'il y a encore des économies d'échelle à faire à l'hôpital sans qu'obligatoirement on puisse mettre en cause la qualité. Et ça, ça passe par plein de petits aménagements successifs qui permettent d'ajuster la façon de faire, la façon de prendre en charge.
Et ça se joue service par service, c'est ça ?
Ça se joue de façon extrêmement locale, service par service. Et chaque service doit être ajusté à la demande qu'il reçoit. Donc on est devant des contraintes budgétaires qui touchent tout aussi bien au niveau du matériel, il est consommable ou pas, au niveau du personnel. Et donc il faut faire avec ça. Et donc il faut faire preuve de créativité. L'intérêt, je vois par exemple dans le service, c'est qu'il a fallu que tout le monde mouille sa chemise pour proposer des solutions innovantes. Et donc là, il y a... une prise en charge de cette réflexion de façon tout à fait collégiale entre médicaux et paramédicaux pour justement affiner ces procédures de prise en charge des patients.
C'est le temps de le dire, on parle de l'hôpital ce matin. Les auditeurs ont la parole au 04 72 38 20 23. Et un premier appel qui vient de Nantes. Bonjour Gérard, merci d'être avec nous. Nous vous écoutons.
Bonjour. Alors, j'interviens pour faire un constat et puis pour poser deux questions. Alors, tout d'abord, je vais commencer par une approche très positive, parce que heureusement qu'il y a les hôpitaux publics, parce que sans eux, il y aurait forcément des gens malades, des gens sans soins et des gens peut-être qui décèdent. Par contre, sur ce constat qui est le manque peut-être de personnel ou le manque de moyens donnés par les pouvoirs publics, il y a ce constat-là que je veux faire. Il ne faut pas tomber, je dirais, malade en situation d'urgence, le week-end et pendant les vacances. J'ai trois exemples rapides à vous donner. Un oncle fait un infarctus un samedi après-midi. Le délai de déplacement du SAMU entre la ville et la commune où il réside est de 30 minutes. Situation finale, décès. Un frère fait une occlusion sur bride, ou si vous préférez, une occlusion intestinale à 23 décembre. On le renvoie à la maison en lui disant « Monsieur, c'est rien, vous croyez avoir mal au ventre, ce sont des troubles psychosomatiques. » Et puis, l'été dernier, dans un hôpital que je ne citerai pas, un chirurgien, pose un anneau gastrique à l'envers. La patiente se plaint, sa plainte n'est pas prise en compte, elle va dans un autre hôpital et lorsque l'on lui met l'anneau gastrique dans le bon sens, ça se passe très mal. Elle vomit donc ce qu'elle a dans l'estomac et ça va dans ses poumons et elle en meurt. Donc j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait pénurie de praticiens, de chirurgiens peut conduire à des situations qui aboutissent soit à des faits graves, soit carrément à des décès. Alors ça m'amène à poser deux questions. Est-ce qu'un chirurgien a le droit à l'erreur ? Et est-ce qu'un chirurgien, au cours de sa vie, parce qu'on peut commencer à pratiquer peut-être à 30 ans, est-ce que s'il pratique de 30 ans à 70 ans, il va y avoir de la formation continue pour que ce chirurgien, justement, soit toujours, entre guillemets, au top de son activité professionnelle.
Merci beaucoup Gérard. On va essayer de répondre à vos questions, mais peut-être d'abord, avant de répondre à ces deux questions qui sont assez précises, peut-être revenir sur vos différents témoignages et ces histoires terribles que vous avez racontées. David Béliard, des histoires terrifiantes comme celle de notre auditeur où des personnes décèdent faute de moyens de l'hôpital public, on en entend tous les jours.
Oui, on en entend tous les jours. Je voudrais juste quand même rappeler que Gérard a eu raison de quand même de souligner que l'hôpital public qui était une dimension essentielle de notre système de santé, il faut quand même le rappeler, même si on parle beaucoup de crise et de difficultés.
On va charger la barque.
Mais c'est quand même un système et encore les hôpitaux fonctionnent quand même et assurent quand même les soins. Après, ce qui est noté, moi je veux pas m'attarder sur des cas très très particuliers, mais c'est la question de la continuité des soins. Et pour reprendre ce que disait Nicolas Bellorget, c'est la question en fait du management et des outils qui ont été mis en place l'ont été pour des raisons purement financières. Et moi, je crois que en qualité de service public, on doit attendre de l'hôpital un certain nombre de services. Donc, on peut parler de productivité, efficience. Bon, après, moi, je suis pas un chercheur pour qualifier correctement tous ces termes, mais je crois qu'on peut attendre un service. Et par contre, lorsqu'on met en place un certain nombre d'outils, notamment d'outils de gestion, il ne faut pas se tromper d'indicateurs. Les indicateurs qui ont été utilisés sont avant tout des indicateurs financiers pour permettre de diminuer les charges et de diminuer les dépenses, qui aboutit en fait à des problèmes en termes de continuité de soins au final. Alors qu'on peut imaginer des indicateurs qui sont des indicateurs de qualité de soins, d'accès aux soins pour toutes et tous, de mieux vivre pour les patients.
Il y a des auditeurs qui patientent, je vais leur demander de patienter encore un petit peu, je voudrais qu'on continue de répondre à Gérard qui mettait en avant le manque de moyens humains et financiers dans l'hôpital qui peut parfois avoir des conséquences dramatiques. Alors je me tourne vers vous, Bertrand Galichon, vous en êtes témoin de ce manque de moyens aigus à l'hôpital ou vous avez envie de nuancer ?
Oui, j'aurais aimé nuancer parce qu'en fait, effectivement, on manque de moyens. Le personnel, aussi bien médical que paramédical, travaille beaucoup, en particulier aux urgences, avec une pression qui est quand même certaine, mais je pense que en améliorant nos façons de faire, nos nos procédures pour prendre en charge le flux des patients, on peut quand même améliorer les choses. Oui, voilà.
Nicolas Bellerger.
Je voulais revenir sur ce qu'avait dit Gérard, sur l'exemple qu'il avait donné d'une personne mal soignée, en fait, qui doit ensuite revenir, dont on n'écoute pas bien la plainte, etc. Ça fait écho à des choses qu'on voit beaucoup dans les hôpitaux. Hein. Je voulais dire que ce qu'a dit Gérard, c'est pas juste quelque chose d'exceptionnel, d'ahurissant.
Oui,
malheureusement, c'est quelque chose qui se produit beaucoup, dont on ne parle pas énormément, donc c'est bien de le souligner. Et quels sont les mécanismes qui sont derrière ? Ce sont justement des mécanismes incitatifs, souvent introduits par les politiques publiques. Alors, Gérard a pointé l'erreur du chirurgien. C'est vrai, il y a erreur médicale, il y a toujours eu. On essaye de la réduire au maximum. L'art médical est quelque chose de compliqué. Ce qui est plus troublant, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie des outils de gestion qui sont mis en place à l'hôpital incitent. J'emploie, c'est bien le terme économique, c'est l'incitation, incite les professionnels de santé à moins bien soigner.
C'est grave ce que vous êtes en train de nous dire.
Oui, mais c'est la réalité. Et pour reprendre l'exemple aux urgences, il y a un indicateur qui est beaucoup promu par les pouvoirs publics, qui est celui du temps d'attente moyen aux urgences. C'est un indicateur d'amélioration de la qualité de l'efficience.
Bah, je me mets du côté patient, c'est mieux d'être accueilli en 20 minutes qu'en 6 heures.
Absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été choisi. Hein. Mmh. Il y a un côté popularité qui fait que ça a une efficacité concrète. Le problème, c'est qu'en fait, si vous attendez 6 heures aux urgences, en général, c'est parce que votre situation n'est pas très grave. Sinon, on vous ferait passer tout de suite. Hein. Les urgentistes sont pas fous. Ils savent que si c'est une question vitale, hop, ils vont vous soigner immédiatement.
Ouais, mon panario doigt de pied.
Donc, si vous avez, si on incite les urgentistes à réduire le temps moyen, la moyenne n'a pas énormément de sens, on va les inciter à voir plus rapidement les personnes. Et par exemple, ça va les conduire, à leur corps défendant, parce que c'est contraire à leur éthique, à accorder moins d'attention à certaines plaintes, ou à ne pas faire certains examens, parce que la personne, bon, ça va, elle a l'air d'aller. Si vraiment il y a un gros problème, elle reviendra. Et donc, il y a beaucoup de personnes à qui on dit, bon, écoutez, madame, monsieur, d'accord, j'entends ce que vous dites, mais vous inquiétez pas, ça va. Si vraiment il y a un problème, n'hésitez pas, revenez nous voir. Mmh. Alors déjà, vous mettez à la place de la personne, ça vous l'oblige à venir une deuxième fois. Entre-temps, sa situation peut se dégrader. Et parfois, il y a des personnes qui n'ont pas le temps de revenir, qui décèdent avant. Mais alors ça, c'est très difficile de prouver la causalité. Mmh. Hein c'est comme la difficulté à prouver l'erreur médicale. C'est extrêmement difficile, hein, parce que c'est toujours quelque chose de... peut-être que c'est la maladie. La maladie, quand on y réfléchit, c'est quelque chose de difficilement cernable. On se bat contre elle, les professionnels de soins se battent toujours contre elle, mais ce n'est jamais un combat gagné d'avance. Hein. Il faut voir qu'il n'y a jamais de certitude dans le secteur. Et ce que on observe donc avec cette incitation à soigner les gens plus vite, c'est qu'ils sont moins bien soignés. J'en veux pour preuve que dans beaucoup de services d'urgence où cette règle a été imposée, il ne s'est rien passé. Les soignants ont dit non, c'est n'importe quoi, et il ne s'est rien passé. Dans certains services, effectivement, le temps d'attente moyen a diminué. Et ce qu'on observe, avec difficulté, parce que c'est des choses qui ne se disent pas beaucoup, c'est que les médecins qui ont fait des progrès, entre guillemets, en réduisant leur temps de passage moyen, sont également ceux qui ont vu leurs patients le plus revenir. Alors, du point de vue des patients, c'est dangereux, mais en plus, du point de vue des finances publiques, c'est inflationniste.
Bertrand Galichon.
Alors moi, je ferai la réflexion suivante, que perdre du temps, c'est en gagner. Je reviendrai un peu en amont sur la réflexion qui vient d'être faite. Je pense qu'il y a un gros problème sur la formation des médecins et du personnel paramédical. Je pense qu'on est trop sur un savoir scientifique, faire de la médecine, de l'exercice de la médecine, une science, alors que ça reste fondamentalement un art et une problématique d'altérité plus que que scientifique. Je suis affolé de voir, et c'est mon cheval de bataille, d'entendre mes jeunes confrères ou les internes, quand ils font les transmissions d'une équipe sur l'autre, des patients qui sont en charge aux urgences, de prendre Madame Bonnet, tel âge, motif de recours, examen complémentaire. Madame Bonnet est passée à l'AS. On ne sait pas qui est Madame Bonnet. Mais on a fait l'inventaire de tous les examens complémentaires objectifs qui répondent à une logique de management, à une logique de dépenses, à une logique juridique, mais pas obligatoirement une logique de soins. Ce qui fait que vous avez certaines suspicions de diagnostics qui embolisent complètement les urgences. Et donc, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre le temps de se la fermer et d'écouter ce que disent les gens. Ça permet de faire, là, on est dans une démarche de qualité et d'efficience.
La médecine comme un art. Alors, je vais me faire taper sur les doigts, hein, parce que, au standard, ça se bouscule. Rolande a été très patiente. Bonjour, madame. Vous
Bonjour.
Êtes à Saumur. Allez-y,
oui, j'écoute. Oui, moi, je trouve, ben, j'ai été dans le monde soignant, j'étais infirmière, j'ai fait de l'hospitalier, j'ai fait surtout du domicile, et je regrette, j'ai été pour moi-même, aux urgences, pour moi-même, et nous étions une salle archi-comble, et on attendait pas mal, j'ai attendu presque une heure que le médecin arrive, on nous a un peu triés. On m'a mis dans une pièce en me fermant dedans. J'ai dit, laissez-moi la pièce ouverte parce que je m'étais ouvert la main, je saignais abondamment. Et le docteur est arrivé peut-être une heure après. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment surbooké. Et ce que je regrette, je ne suis pas jeune. Dans ma jeunesse, il y avait des dispensaires dans le quartier. Et moi-même, à l'époque, j'étais donc une petite fille qui arrivait de Paris. Donc, quand il y avait quelque chose, un bobo ou autre, les parents nous amenaient au dispensaire de quartier où il y avait un médecin, deux infirmières et des soignants. À quel titre, je ne sais pas à l'époque, mais je sais comme ça qu'on m'a détecté une primo-infection. Ce qui fait que quand le médecin m'a radiographié tout ça, on m'a envoyé de suite prendre l'air dans un prédentorium. Et je regrette beaucoup que ces dispensaires de quartier soient disparus peu à peu. Et que l'on regroupe tous les malades avec une affluence telle que, justement, comme disaient toutes ces personnes et ces médecins, on en arrive à perdre un temps fou pour férier. Qui c'est qui est urgent, qui c'est qui est pas urgent.
Alors, merci beaucoup Rolande pour votre témoignage. C'est très intéressant cette idée d'une médecine qui soit plus une médecine de proximité avec des dispensaires de quartier. Il y a des solutions alternatives qui se mettent en place quand même, David Béliard.
C'est un des grands enjeux et un des grands débats aujourd'hui. Hein, c'est ce que nous disions tout à l'heure, l'articulation entre l'hôpital public et les soins de ville. Et ce que vous appelez, madame, des dispensaires, aujourd'hui on parle plutôt de maisons de santé. Avec regrouper des médecins qui sont des médecins généralistes, mais aussi, pourquoi pas, des médecins spécialistes ou des professions paramédicales comme infirmières, kinés, etc., qui sont regroupés dans des endroits de proximité, où il est facile d'aller, où les soins sont gratuits et qui permettent d'avoir ce soin de premier recours avant l'hôpital.
Mais juste de laisser les urgences au cas vraiment grave.
Aux urgences. Exactement. Et alors ça pose quand même plein de questions, hein, parce que ça remet en cause, peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure, mais la question de la médecine libérale aujourd'hui, puisque la question c'est de savoir comment on paye ces maisons de santé. Est-ce que ce sont des médecins salariés? Est-ce que ce sont des médecins libéraux à qui on propose une contractualisation pour qu'ils puissent travailler ensemble? À titre personnel, je pense que la question des maisons de santé, des dispensaires, hein, qui sont en fait ces fameux dispensaires avec des professionnels de santé qui sont salariés, sont une solution, en tout cas une voie d'amélioration pour l'accès aux soins, notamment dans les zones qui sont où il y a peu de professionnels de santé, ce qu'on appelle les déserts médicaux, ou dans certaines villes comme par exemple Paris, où les médecins pratiquent des dépassements d'honoraires importants et où finalement on a beaucoup de médecins mais des difficultés pour une partie de la population à y accéder.
Nouvel auditeur en ligne, c'est Jean-Jacques qui nous appelle depuis Tours. Bonjour monsieur.
Allô ?
Oui, nous vous écoutons Jean-Jacques, allez-y.
Oui, bonjour. J'ai déjà eu quelques réponses à mes questions, hein, depuis que j'ai appelé, mais quand même, je voulais aborder le problème de l'accueil aux urgences, hein, et c'est vrai que quand on voit cette attente qui peut durer des heures et des heures, c'est quand même anormal, ou ces couloirs qui sont encombrés par des personnes sur des lits pendant des heures, c'est quand même quelque chose qui ne devrait pas exister. Et puis, revenir sur le problème des mauvais diagnostics ou des pathologies qui ne sont pas repérées, je pense que ce sont des internes qui reçoivent en général les patients. Est-ce que ces internes, qui sont encore des étudiants, ont suffisamment d'expérience pour repérer justement ces maladies ou ces pathologies qui sont des fois lourdes?
Merci beaucoup Jean-Jacques pour cette réflexion. Alors je me tourne vers vous Bertrand Galichon, est-ce que les médecins sont suffisamment formés? Est-ce que les internes ont le niveau? C'est des étudiants, mais bon, quand même, ils ont un pas mal d'années derrière eux.
Oui, alors notre interlocuteur a raison. Ce sont effectivement des internes qui reçoivent les patients, mais il faut savoir maintenant que dans la très grande majorité des services d'urgence, il y a toujours un médecin senior plus âgé qui a plus de bouteilles, qui est là pour justement encadrer ces internes et vérifier que la prise en charge est conforme aux pratiques habituelles. Voilà. D'autre part, l'encombrement des urgences. Oui, certes, il y a des moments où les urgences sont...
Mais on a fait quand même beaucoup de progrès.
Oui, on a fait beaucoup de progrès.
À quel coût? Je sais.
On a fait beaucoup de progrès et les progrès sont faits essentiellement par les modalités de prise en charge et d'organisation du service. Je pense qu'on attend beaucoup après être passé chez l'infirmière d'accueil et d'orientation qui évalue éventuellement avec un médecin, le niveau de gravité et le degré d'urgence pour la prise en charge du patient. Après ça, on peut attendre, effectivement. Mmh.
Pour revenir à une question qui a été posée en début d'émission, je crois que c'était Gérard, la question de la formation permanente des médecins, est-ce que les médecins ont le temps, est-ce qu'il y a les moyens disponibles pour qu'ils puissent se former tout au long de leur carrière? Ça dépend de chaque structure hospitalière?
Alors, il y a une... À l'hôpital, je parle de ce que je connais, on a du temps dédié pour ça, n'est-ce pas? Donc, qui doit être utilisé à cette fin, n'est-ce pas? Donc, il y a une formation régulière des médecins.
Ça, c'est dans les textes et en réalité?
Et en réalité, c'est comme... Enfin, au moins en hôpital universitaire, c'est comme ça que ça se passe. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle des staffs réguliers, où des spécialistes de l'extérieur du service viennent nous former, nous donner les derniers avancements sur telle ou telle question particulière.
Nouvelle auditrice en ligne, c'est Evelyne, infirmière en Haute-Savoie. Bonjour Evelyne.
Oui, bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir donner mon témoignage. Je suis infirmière spécialisée en bloc opératoire, j'ai 55 ans. Je suis encore dans une période de burn-out, je suis pas totalement guérie. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que la façon de management actuelle, ça n'a plus rien à voir avec les soins. On fait des statistiques, le taux d'occupation des salles, rétabli sur une année, redivisé par un tas de facteurs qui font que ils pensent qu'il faut staffer une salle opératoire de 1,3. Infirmière, par exemple. Concrètement, dans un bloc d'urgence, ça veut dire qu'on n'est pas assez nombreux. Si toutes les salles fonctionnent, on ouvre les salles, il y a une personne qui passe entre 3 ou 4 salles différentes, on transmet les infections, on n'a plus de conditions de sécurité et de qualité. Et c'est quelque chose qu'on prend sur nous, je veux dire, moi je suis en souffrance personnellement parce que je ne peux plus faire mon travail en âme et conscience comme je conçois mon métier, et je suis en souffrance pour toutes mes collègues, parce que vraiment on a la foi, on s'investit, on donne tout ce qu'on peut de nous, et on n'a pas les moyens de le faire. Et moi je pose la question, qui est responsable le jour où il y aura un accident, un décès? Je peux pas porter ça sur ma conscience parce que je fais tout ce qu'il peut pour que ça arrive pas, mais il y a un moment où on n'a plus les capacités de le faire, physique et psychique.
Merci beaucoup Evelyne pour votre témoignage, merci pour votre confiance. J'ai envie de me tourner vers vous, Nicolas Bélanger, vous avez donc fait tout un travail universitaire sur ce nouveau management public dont est victime, parce que je crois qu'on peut parler de ça, Evelyne qui vient de nous appeler, elle dit c'est les statistiques contre le soin, les victimes sont la sécurité, la qualité de ce que nous faisons de notre travail.
Oui, c'est un témoignage très révélateur de ce qui se passe à l'hôpital. Alors faut pas blâmer les statistiques en général, parce qu'on peut faire des statistiques sur...
Comme sociologue, vous les utilisez pas.
Sur sur des bonnes choses, c'est un outil de connaissance. Mais là, en l'occurrence, on voit clairement que l'outil qui est utilisé à des fins gestionnaires, on voit clairement que le taux d'occupation des salles, c'est l'équivalent du temps d'attente dont on parlait tout à l'heure pour les urgences. Mmh. Il s'agit, en améliorant ce taux d'occupation, de rentabiliser, il n'y a pas d'autre mot, l'équipement que constitue la salle. Donc de faire rentrer plus d'argent. Alors ce taux d'occupation va augmenter, ça va améliorer les finances de l'hôpital, et en même temps, comme le dit notre auditrice, ça va mettre de plus en plus les soignants sous pression, jusqu'au moment où ils ne pourront plus, au moment où il y aura des erreurs, ce qu'on constate malheureusement régulièrement. Et dans ce cas-là, en plus, le droit positif ne prend pas bien en compte cette situation, parce qu'en général, ces erreurs sont imputées aux soignants, et dans leur conscience professionnelle et leur conscience personnelle, souvent aussi, ils se disent « mais c'est ma faute, j'ai mal fait ». Alors que si on prend un tout petit peu de recul, si on regarde ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a globalement une pression à faire des économies. Ils sont en première ligne, en bout de chaîne, et que ensuite ils disent « je suis en burn-out », tout simplement, parce qu'on on a mis trop peu de monde pour faire le travail nécessaire.
Bertrand Galichon.
Oui, moi j'abonderai dans ce sens-là, simplement un témoignage dans le service. On a des médecins qui sont passés dans le service et qui n'ont pas voulu continuer parce que justement la pression, cette pression-là était trop forte, et puis justement ce risque médico-légal qui est pris n'était à leurs yeux pas supportable. Et le sentiment que si jamais il y avait un bug, eh bien ça serait pour eux et pas l'administration de l'hôpital, tous les moyens ne seraient pas pris en compte pour expliquer la situation dans laquelle ils sont. Il y a un autre sujet là qui nous travaille en ce moment, c'est celui de la violence aux urgences et la féminisation de la profession. L'autre soir, nous étions en garde, donc dans un service qui reçoit à peu près en moyenne 270-280 personnes par jour. Une population difficile. On a eu l'obligation d'appeler à trois reprises la police pour régler des problèmes de violence importantes aux urgences. Et bien, dans l'équipe qui représente à peu près la nuit une quinzaine de personnes, il n'y avait que trois hommes. Ce qui pose un problème, n'est-ce pas ? Et donc, là aussi, ça fait partie des moyens, n'est-ce pas ? Donc, je comprends qu'il y ait des personnes du personnel qui, au bout d'un moment, disent « Non, stop, j'arrête ».
Bon, je ne sais pas si ça va nous faire du bien, on va écouter les Rolling Stones. En tout cas, ça peut peut-être faire du bien à certains.
Vous écoutez la rediffusion du Temps de le dire, présentée par Stéphanie Gallet. Attention, notre standard est fermé.
Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. It's sleeping, it's abating. Can't you please tear it out and preserve it right there in that jar? Oh, help me, please, mama, I'm sickening. It's today, that's the day of the plunge. Sleeping, it's a beating. Can't you play?
Si ça fait du bien, les Rolling Stones, c'est toujours bon dans les oreilles. Voilà, c'est le temps de le dire. On parle de l'hôpital ce matin avec mes invités. L'hôpital qui ne va pas très bien, vous l'avez sûrement peut-être constaté. Mes invités, David Béliard, Alternative économique. Son livre, c'est Notre santé est-elle à vendre, chez Textuel. Il y a aussi Nicolas Bellerget, L'hôpital sous pression, aux éditions Les Découvertes. Et puis le docteur Bertrand Galichon du Centre catholique des médecins français. Et puis vous, au bout du fil, au 04 72 38 20 23, ou par mail, le temps de le dire, @rcf.fr. Philippe est à Caen, il nous dit qu'il est curé et médecin retraité. Il nous dit « Je viens d'être opéré d'un triple pontage coronarien à l'hôpital Saint-Martin de Caen. Je veux témoigner de la grande qualité des soins, tant opératoires que post-opératoires. Quand vous avez été dépendant de votre entourage, comme après une opération avec circulation extracorporelle, vous vous rendez compte combien le personnel est aux petits soins avec vous. Je leur tire mon chapeau. Si les hôpitaux sont engorgés, c'est à cause du numerus clausus institué par les pouvoirs publics. Nous manquons de médecins français et nous pourrions en former davantage et aussi en envoyer dans le monde, là où il manque. La vision malthusienne et économique du ministère de la Santé empêche des jeunes gens de s'engager dans cette voie. » Donc c'est une question qui vous intéresse, David Béliard.
Oui, alors, elle m'intéresse, mais je pense qu'elle intéresse plein de gens.
Oui,
C'est effectivement le numerus clausus, c'est-à-dire le nombre de médecins formés chaque année, et a été extrêmement bas, notamment dans les années 90, où il a atteint un seuil extrêmement bas de 4000, je crois, médecins formés par an. Alors, il remonte. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un pic haut en termes de nombre de médecins. On est à plus de 200 000 professionnels en France, mais ce qu'on sait aussi, c'est que une grande partie de cette population, un peu plus d'un tiers, a plus de 55 ans. Donc d'ici 5 à 10 ans, nous allons manquer de professionnels de santé, et on le voit d'ailleurs dans les établissements hospitaliers, notamment dans les petits hôpitaux qui ont du mal à recruter des professionnels, et qui, je crois que votre auditeur y fait référence, sont obligés de faire appel à des professionnels qui viennent d'autres pays que la France, à des conditions d'ailleurs salariales qui sont différentes, ce qui pose quand même un problème de discrimination en termes de traitement, mais aussi de formation. La formation française est encore considérée comme l'une des meilleures du monde, même s'il y a beaucoup de choses à dire, on l'a évoqué, mais c'est peut-être l'objet d'une autre émission. Mais en tout cas, effectivement, ça pose la question du nombre de médecins, pose un certain nombre de problèmes. Je terminerai juste en disant que il y a effectivement la question du numerus clausus, mais il y a aussi la question de l'articulation entre les différents professionnels de santé. On le voit bien, par exemple, avec la mobilisation des sages-femmes qui demandent à être reconnues pour un certain nombre d'actes médicaux qu'elles font, et elle pose en fait une question plus générale, qui est la question de la délégation d'un certain nombre de tâches qui sont aujourd'hui effectuées par les médecins à d'autres professionnels, sages-femmes, kinés, infirmières, pharmaciens, etc.
Il y a un mail de Fabienne qui est à Angers. Elle nous dit « Je confirme que la tarification des actes a été un outil de mesure pour contrôler et analyser les coûts. Cela n'a pas encore permis de supprimer les déficits, mais cela a révélé tous les hôpitaux qui avaient besoin d'être réorganisés ou supprimés. Bien entendu, la plupart des personnels des services de santé ont tenté de trouver tous les arguments pour éviter cette transparence qui a eu le mérite de révéler des gaspillages ou des sources d'économies. L'un de vos invités a bien confirmé qu'il y avait encore des économies d'échelle à réaliser. » Alors Nicolas Bellerget, vous êtes peut-être moins optimiste sur l'efficacité de la tarification à l'acte.
Je serais moins catégorique, effectivement, que cette auditrice, qui me semble tenir un discours que j'ai entendu très souvent, qui est le discours managérial classique dans le secteur hospitalier, qui consiste à dire nous avons mis de la transparence, nous avons fait se comparer les gens entre eux.
Mais c'est vrai qu'il y avait des abus, il y avait des endroits où c'était pas tout à fait réglo.
Oui, bien sûr. Mais la prolongation de cette démarche, cette démarche s'est beaucoup faite sous couvert de une plus grande égalité dans le soin, d'une plus grande transparence. Et effectivement, elle a l'intérêt de faire remonter un certain nombre d'informations sur ce que font les soignants, qui, en tant que profession en général, estiment que ce sont les seuls habilités à dire ce qui est bien ou mal dans leur exercice professionnel. Donc il y a un aspect démocratisation. Ça, c'est le bon côté de la médaille. Le mauvais côté de la médaille, c'est que cette remontée d'informations a été utilisée dans un seul sens, qui est, encore une fois, de faire des économies. Et là, la tarification à l'activité qui est mise en place dans les hôpitaux...
Est-ce que, grosso modo, ça veut dire qu'il y a un tarif pour une entorse, un plâtre, une opération particulière?
Exactement. Standardise ce qu'on appelle désormais un mode de production, disant, un accouchement, ça vaut tant, ça va être financé à tel niveau. Et donc, tous les
accouchements... Alors qu'on le sait bien, il y en a qui accouchent en 5 minutes et d'autres en 10 heures.
Exactement. Et ça, c'est très mal pris en compte dans les référentiels, de telle sorte que il y a des patients qui vont coûter beaucoup plus cher que d'autres et qui ne vont pas être financés par les pouvoirs publics à hauteur de leur coût. Et à nouveau, on se retrouve dans l'incitation. Vous êtes soignant. Alors, soit vous écoutez votre conscience personnelle et vous dites, c'est pas grave, je le soigne et je m'en fous que l'hôpital soit pas payé suffisamment par rapport à ce que ça nous aura coûté en temps, en tout ce que vous voulez, en effort. Et puis, il y a des soignants qui se disent, faut que je gère mon budget. Si je boucle pas mon budget, je vais pas pouvoir soigner d'autres personnes. Donc, c'est un autre patient qui va trinquer. Donc, dilemme moral, dilemme éthique. Et qui, petit à petit, vont en venir à sélectionner les patients les moins coûteux et donc qui vont se renvoyer comme des mistigris les patients les plus coûteux. Et on peut en tracer certains comme ça dans le système de soins qui rebondissent comme des balles de ping-pong, qui arrivent au troisième, quatrième endroit, qui disent « celui-là, il n'a pas été pris ailleurs, comment ça se fait ? Il nous arrive. » Et là, oui, c'est un patient qui coûte beaucoup plus cher que le financement qui lui sera alloué.
Bertrand Galichon, parfois il faut savoir être dissident, c'est ça ?
Oui.
Et entrer en résistance ?
Non, cette réflexion... fait penser que c'est notre vie de tous les jours, ça. Mm-hmm. C'est pas la balle de ping-pong, nous, c'est la patate chaude, c'est la même chose. Et c'est ce patient qui va rester aux urgences 3, 4, 5 jours.
Parce que personne n'en veut ailleurs.
Et c'est aussi la sainte colère du directeur qui, quand il apprend ça, parce que tel ou tel patient n'ait pas été pris en charge parce qu'il y a un problème de sécu, parce qu'il y a un problème de SDF, parce qu'il y a... Là, il rentre dans des colères noires et le patient est imposé dans le service. Il est évident...
C'est pas bon d'être le patient imposé.
Si vous voulez, vous avez 30 ans, vous êtes jeune et beau, vous êtes une Wonder Woman et vous avez une pneumopathie, vous êtes prise tout de suite... Vous êtes Madame Dupont de tout à l'heure, qui a 80 ans, qui a des problèmes annexes importants, vous êtes moins glamour, donc vous êtes...
Donc il y a vraiment une inégalité dans l'accès aux soins ?
Là, il y a un effet pervers de la T2A, oui. Et c'est clair.
Et ce qui est terrible en plus, c'est que ça fait reposer sur les soignants l'obligation de choisir, et que c'est ça de une grande partie de l'origine du fameux malaise soignant de la crise dont on parlait tout à l'heure. C'est pas quelque chose qui vient des limbes, etc. C'est tout simplement que les soignants sont de fait mis en position de gestion et qui sont obligés de faire des choix sur des fondements budgétaires qui vont à l'encontre de leur conscience.
Bertrand Galichon, puis on donnera la parole aux auditeurs.
Oui, je rebondis. Ici en France, c'est effectivement les soignants qui prennent ces décisions-là parce que, pour ça, il faut bien que quelqu'un la prenne. En Angleterre, il y a des dispositions qui font que c'est le système qui gère les patients comme ça, et donc la responsabilité est prise de façon collective. C'est beaucoup plus honnête que le système français à l'heure actuelle où, effectivement, c'est un petit peu au bonheur à la chance.
On vous a créé des bad advisors, c'est ça ?
Ah oui, alors ça, c'est encore autre chose. On pourra faire une émission là-dessus.
C'est un monsieur qui est chargé de répartir les lits, ou une dame parfois. Oui, Nicolas Bellerger.
Le système anglais a effectivement l'avantage de dire les choses plus clairement. Et pour les cas d'engorgement aux urgences, ce qui est intéressant, c'est que ça remonte directement à la responsabilité gouvernementale. C'est-à-dire que c'est dans les tabloïds, c'est dans les journaux, on sait que si Madame Intel est décédée ou qu'elle a mal été soignée, quelque part le gouvernement est responsable et donc le gouvernement va faire des choses. C'est un peu ce qui s'est passé en France au moment de la canicule de 2003, où la responsabilité des pouvoirs publics a un peu été pointée du doigt. Et à partir de là, rapidement, s'est mis en place toute une politique publique consistant à dire non, c'est pas la faute des pouvoirs publics, ce sont les soignants. On crée des commissions de réflexion pour réduire le temps d'attente aux urgences, puisque c'est bien ça le problème.
Ce ne sont pas les familles qui ne se sont pas occupées de leurs petits vieux, ça c'est encore une autre chose. Pascal est à Nancy. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour, vous m'entendez ?
Oui, on entend aussi les oiseaux.
Oui, ce sont les canaris que j'ai récupérés de mes patients qui sont placés maintenant. Alors, j'invoque tous les saints, thaumaturges et anargyres pour protéger notre système de santé. Je suis médecin généraliste et j'ai effectué, je vous ai déjà appelé plusieurs fois, une dizaine d'années à Médecins du Monde en milieu urbain en France avant de m'installer. Et je me suis installée donc dans un quartier difficile en Lorraine, tout près d'un CHU. Et j'ai vu depuis 2008 la situation franchement se dégrader. Je suis admiratif du personnel soignant qui est en hospitalier et aussi au personnel soignant et paramédicaux qui sont dans mes quartiers, qui sont difficiles, parce qu'ils font le maximum. J'ai vu des infirmières apporter des repas en week-end parce que on se permet de faire sortir des patients un vendredi sans nous avoir prévenus. Et donc, sans portage de repas, sans pouvoir installer le minimum. Donc, ces personnels sont vraiment diligents et je les admire. Ce que je regrette, c'est le manque de coordination et le manque d'écoute que nous avons parfois avec l'hôpital, voire le dénigrement que nous avons vis-à-vis des hospitaliers. Certains nous respectent, certains prennent notre écoute, surtout quand nous avons un appel direct. Alors j'appelle tous mes jeunes confrères, parce que moi je suis de plus de 55 ans, j'appelle tous mes jeunes confrères à prendre du temps. Le temps c'est de l'argent, mais le temps c'est aussi de la santé. De décrocher leur téléphone, de prendre leur réseau qui s'appelle Vilop ou autre chose et de téléphoner directement aux assistants et aux hospitaliers directement quand ils ont des gens qui sont en situation sociale difficile pour et naturellement médicale compliquée pour pouvoir insister et présenter les cas aux médecins. Ça, c'est vraiment important. L'autre face de la chose, c'est que nous sommes très pris et très investis pour suivre ces patients. Nous sommes très peinés quand nous entendons des patients venir nous quémander, nous supplier de les prendre parce qu'ils ont plus de 70, 75 ans et qu'ils n'ont pas trouvé de médecin qui veulent venir en visite, leur répondant « Nous ne faisons pas de visite, ça ne rapporte pas assez. »
Pascal, est-ce que vous pouvez conclure votre témoignage, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il faut qu'on laisse la parole pour les autres et pour vous répondre ?
Il y a aussi les handicapés qui n'ont pas le personnel adapté à l'hôpital pour les occuper. J'ai vu des infirmiers à l'extérieur venir pour s'occuper de pompes spéciales qui avaient été posées par des pneumologues et dont les personnels infirmiers n'arrivaient pas à régler à l'hôpital. Il y a des problèmes de fonctionnement. Je souhaite qu'une seule chose, c'est que tout ceci arrive à se régulariser et que nous arrivions à fonctionner. Le problème, c'est le nombre et la disponibilité et le respect de nos actes. Oui. Si nous devons perdre du temps à remplir des bons de transport et des ordonnances parce que certains ne veulent pas mettre non substituable devant certains médicaments, nous ne pourrons plus soigner à l'extérieur. Et nous aurons des problèmes et les urgences seront engorgées.
Merci beaucoup Pascal, je suis obligée de vous couper mais il faut qu'on puisse vous répondre. Merci pour votre témoignage qui est très lourd hein, sur la situation de certains patients que vous suivez dans ces quartiers compliqués de Nancy. Pascal, elle souligne la très difficile coordination entre l'hôpital et la médecine de ville. On en a déjà parlé, elle nous dit on a besoin de coordination, on a besoin d'écoute et on sentait aussi on a besoin de respect. Et puis David Béliard.
C'est effectivement, mais ça c'est un sujet déjà ancien de discussion. Il y a eu, de mémoire, je crois que ça existe encore, les réseaux ville-hôpital qui permettent en fait d'articuler autour de pathologies spécifiques des soignants et des professionnels de santé qui sont à la fois sur les soins de ville et sur les hôpitaux. Ces initiatives ont révélé des limites. Et n'ont pas donné lieu, en tout cas, à des résultats très très probants, ce qui fait que du coup, le milieu hospitalier et l'or hospitalier est encore assez hermétique, même si on le voit bien avec les hospitalisations à domicile, il y a un certain nombre de d'initiatives et puis de mouvements généraux qui fait que les articulations vont et se font un petit peu mieux, mais ce que dit l'auditrice effectivement révèle une réalité dans les difficultés de discussion. Je voudrais juste terminer en disant, en soulignant un point que votre auditrice a pointé en début de son intervention, c'est la dégradation de la situation. Et effectivement, depuis 2007, depuis le milieu des années 2000, on voit quand même que les indicateurs sanitaires en France se dégradent petit à petit, et notamment sur les populations les plus précaires, alors même que nous avons un certain nombre de dispositifs qui leur permettent d'être remboursés, d'avoir accès à des soins gratuits ou même à l'hôpital. Et je pense que ça, c'est un des points qui marque vraiment, on parlait de crise, est-ce qu'il y a crise à l'hôpital, est-ce qu'il y a crise à notre système de santé ? C'est un des points, en tout cas un des indicateurs qui pour moi montre la crise de notre système aujourd'hui.
Nouvel auditeur, c'est Jean-Luc qui est à Rouen. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour. Oui, je voulais simplement essayer d'aller un peu contre l'unanimisme des corporations, enfin corporatistes qu'on rencontre souvent dans le service public, chez les fonctionnaires, comme quoi tous les problèmes, c'est toujours parce qu'il n'y a pas de moyens. Alors que le secteur de la santé, si on regarde le secteur de la santé depuis plusieurs dizaines d'années en France, c'est le secteur qui a bénéficié de l'inflation de moyens financiers le plus important dans des proportions complètement exceptionnelles. Les budgets de santé dans les pays comparables en France on atteint des records, tout le monde le sait, au niveau des budgets publics. Donc ce qui est quand même un petit peu étonnant, c'est que on ne pointe pas plus des problématiques de gestion quand on regarde le fonctionnement de l'hôpital, le fonctionnement global du système, vu que si vous regardez les principaux acteurs, que ce soit l'industrie pharmaceutique, les médecins, les clients, en fait tout le monde a intérêt à surconsommer, à consommer sans limitation et sans rationalisation.
Alors Jean-Luc, mes invités vont vous répondre, je suis pas sûr qu'ils soient totalement d'accord avec vous. David Béliard.
Moi, je vais réagir sur la première partie de votre intervention. La deuxième ferait l'objet d'une discussion un petit peu plus large. On en discutera peut-être tout à l'heure. Les budgets consacrés à la santé de la France sont à peu près équivalents à celui des autres pays de l'OCDE. Par exemple, les États-Unis consacrent 17% de leur PIB aux dépenses de santé. La France, on doit être aux alentours de 12%. Donc, on est très, très en dessous. Et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, est aux alentours autour de 9, 5, 10%. Donc on est en fait dans une fourchette équivalente et il n'y a pas d'explosion des dépenses de santé, il y a augmentation des dépenses de santé, mais qui sont liées aussi, et pour beaucoup quand même, à des besoins qui sont de plus en plus importants.
Nicolas Bellerger.
J'ajouterais que si on regarde finement l'évolution des budgets hospitaliers en proportion du PIB, ces dernières années, ces budgets ont varié en fonction... Cette proportion a varié en fonction de la conjoncture économique. Ça veut dire en gros que en situation de crise économique, de baisse du PIB, effectivement, le ratio augmente parce que les dépenses hospitalières demeure en l'état, et c'est tant mieux, ça permet que le pays ne s'enfonce pas plus dans la crise. Quand l'économie repart, ce ratio diminue.
Il y a un mail de Catherine, elle nous dit « Travailler en hôpital psychiatrique en Isère, le constat que je fais est qu'il y a de plus en plus de cadres, de directeurs et de moins en moins de soignants. » Est-ce que vous pouvez constater ça, Bertrand Galichon ? Non ?
Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une inflation de l'administration de l'hôpital, des cadres de tout poil,
Nicolas Bellerger.
Je n'ai pas constaté ça.
Au niveau des données stat, ça apparaît un petit peu. Ouais. Par exemple, il y a l'émergence de nouvelles fonctions comme cadre de pôle, des personnes qui sont de plus en plus dans la gestion. Et contrairement à la doxa managériale des petites structures qui seraient bien réactives, on assiste beaucoup quand même à la mise en place d'un appareil bureaucratique de contrôle, alors qui se présente souvent comme libéral, l'hôpital entreprise, mais qui en pratique multiplie les échelons, à l'encontre même de sa propre logique.
Oui, effectivement, la politique du pôle est quand même à revoir. C'est le syndrome du millefeuille.
Alors, il y a un long mail de Denis qui est dans le Maine-et-Loire. Je ne vais pas tout vous lire. Il revient aussi sur cette idée qu'il y a de plus en plus d'administratifs et moins de soignants. Il nous dit aussi « J'ai eu le malheur d'être hospitalisé un mois en fin d'année. Les crédits sont épuisés pour faire appel à du personnel intérimaire. » Voilà ce qu'il nous dit. Et puis, pour terminer, « Le patient est très bien soigné par de très bons techniciens, mais ils ne savent pas communiquer en interdisciplinaire. Seul le chirurgien est le seul à pouvoir les coordonner. » Alors ça, c'est quelque chose qui vous est cher, je crois, Bertrand Galichon. On a des bons techniciens. Par contre, au niveau de l'accompagnement humain, ça manque de formation.
Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on sait faire de la technique, on sait faire de la science, mais dans ce qui est de l'accompagnement humain, de l'altérité ajustée, là, c'est un peu moins... On est un peu moins fort et là, j'incrimine notre système de... Non seulement de sélection des étudiants en médecine, mais en plus de ça, de leur formation qui est derrière. Et à l'heure actuelle, on est en passe de leur faire passer tous leurs examens sous forme de QCM. Ce qui me paraît d'une aberration totale, quoi. On va arriver dans des raisonnements binaires qui vont à l'encontre de l'art médical.
Oui, ce qui domine, c'est la subtilité.
Oui.
Je voudrais, là, il va nous rester 10 minutes, et donc je voudrais que chacun, on puisse esquisser des pistes pour améliorer ce qui se passe à l'hôpital. Alors, Nicolas Bellorget, par où il faudrait commencer ?
Alors, c'est le domaine où je suis le moins bon, la prospective.
D'accord. Bon, bah, comme ça, vous commencez, les autres compléteront.
Je pense qu'il y aurait il y a des choix politiques à faire sur le niveau du financement qu'on accorde aux dépenses de santé.
Donc, il faut mettre encore plus de budget ? Il faut les...
Il faut arrêter de les réduire, de fermer des petits hôpitaux, d'accroître les déserts médicaux et de réduire les effectifs jusqu'à ce qu'il y ait des erreurs. Ça me semble très clair. Deuxième chose qui me semble utile, c'est, s'il faut raisonner par indicateurs, de mettre en place de vrais indicateurs de qualité et pas uniquement, comme c'est le cas aujourd'hui, des indicateurs d'économie, de productivité.
Donc qu'on prenne en compte la satisfaction des patients, la qualité des soins, le taux de retour...
La qualité des soins, oui.
Peut-être la satisfaction des soignants aussi.
La satisfaction des patients, c'est très dangereux, parce que souvent, ils ne sont pas qualifiés pour savoir s'ils ont été bien soignés ou pas.
Ils savent quand même s'ils se sentent mieux ou pas, non ? Je ne sais pas.
Donc, il faut l'apprendre avec précaution. À l'heure actuelle, c'est beaucoup utilisé, mais à contresens, quoi. On fait dire aux patients des choses, à travers des sondages complètement aberrants, on leur fait dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est vraiment passé.
Et la satisfaction des soignants ?
Oui, bien sûr. Alors attention à ne pas non plus se reposer sur les soignants pour savoir ce que pensent les patients.
Donc vous nous avez dit plus de budget, en tout cas arrêter de diminuer le budget, et puis de meilleurs outils d'évaluation. David Belliard.
Alors, pour compléter et partager cet unanimisme dont notre éditeur parlait tout à l'heure, moi, j'ajouterais du coup deux points. Un point sur, pour soigner l'hôpital, soignons la médecine de ville, soignons les soins courants, mettons des maisons de santé, des dispensaires, remboursons plus largement les soins. 55%, c'est insuffisant. Il faut remonter le niveau de remboursement et permettre un accès à des soins courants, à des soins simples pour toutes et tous. Voilà, ça, ce serait vraiment un premier point qui permettrait, en fait...
Est-ce que c'est pas inflationniste, ça ? Enfin, si on pense au déficit de la Sécu, on va pas...
Est-ce que vous avez une heure ?
Non, j'ai plus que 6 minutes.
Non, il n'y a pas...
Même, je pense qu'il faut, parce que ça, on va se dire ça, forcément, on va augmenter les dépenses de Sécu.
Non.
Pas forcément.
Aujourd'hui, en fait, ces dépenses sont prises en charge par des complémentaires de santé. C'est simplement des transferts de charges. C'est savoir, est-ce que ces dépenses sont prises par des acteurs privés avec des systèmes discriminants d'accès aux soins par des contrats, en fait, qui donnent des contrats plus ou moins performants en fonction de ce que vous payez. Ou alors, est-ce que vous les transférez vers un service public qui s'appelle la sécurité sociale et qui permet un accès égal à toutes et à tous aux soins. Et en fait, vous pouvez faire ça complètement à budget constant. Nicolas Bellorget parlait de choix politiques. Je crois que là aussi, on a des choix politiques. Avec la généralisation des complémentaires santé qui est prévu par l'actuel gouvernement, on a le choix politique de faire porter une partie de ces dépenses sur des acteurs privés et donc de privatiser une partie de notre système de soins. Et l'hôpital public, qui a été réaffirmé, ça c'est un point positif, en tout cas la dimension service public a été réaffirmée par la ministre de la Santé, donc c'est un point positif, on va voir ce que ça donne concrètement, eh bien... va pâtir à un moment donné de cette déficience, à mon avis en tout cas, des systèmes de toute la partie soins courants.
C'est-à-dire qu'il faut mettre le paquet sur les soins courants pour faire des économies au niveau de l'hôpital, c'est ça en fait. C'est-à-dire que si on soigne les gens en amont, on les aura moins avec des pathologies graves.
C'est la logique. C'est la logique. La deuxième point, pour être très court et rapide, il y a la question des dépenses. Je crois que aujourd'hui, là, les hôpitaux français ont annoncé 400 millions d'euros de déficit. C'est reparti à la hausse. Alors, il y a plein d'explications, mais il y a un des points qui est, par exemple, l'achat des médicaments. Il y a un certain nombre d'économies. On en a parlé, on l'a esquissé au cours de la réunion. Il y a des économies possibles, des économies en termes d'organisation, mais aussi des économies en termes d'achat de médicaments. Ça représente une part très importante des charges des hôpitaux. Et aujourd'hui, les marges que se font les industriels se font au niveau des médicaments qui sont fournis à l'hôpital, notamment sur des anticancéreux, sur un certain nombre de nouveaux produits. Et la question, c'est de savoir à combien est-on prêt de payer ces médicaments et sont-ils réellement efficaces? Alors, je sais que c'est une autre émission, mais c'est une piste, en tout cas, d'économie qui pourrait être envisagée.
Ah, ça, on y travaille à faire une émission sur les médicaments. Pour illustrer ce que vous venez de nous dire, un mail de Chantal qui est dans les Côtes d'Armor. Juste une anecdote concernant les économies à faire à l'hôpital. J'ai passé une IRM pour laquelle on m'a demandé d'acheter un produit, 67 euros, pris en charge, bien sûr. Or, on m'a dit en arrivant qu'on n'allait pas utiliser ce produit. Je l'ai ramené à la pharmacie où on m'a dit qu'il serait détruit parce que la loi était ainsi faite pour des questions de sécurité. J'ai tenté de le rapporter à l'hôpital où on m'a dit la même chose. Je suis en colère quand je pense à tous dans le monde qui n'ont pas accès aux soins primordiaux. Où est la logique quand on parle de faire des économies à la sécu? Voilà, ça c'était juste pour illustrer ce que vous venez de nous dire. Bertrand Galichon, à vous, des pistes pour que ça aille mieux à l'hôpital?
Oui, il y a deux projets qui sont plus ou moins avortés ou qui n'ont pas été portés jusqu'au bout par les autorités du pays. C'est le premier, la notion de réseau. Les réseaux par pathologie, je vois par exemple les réseaux de soins palliatifs qui ont fait un travail énorme et qui sont pas portés. Ce qui fait que maintenant, les soins palliatifs, enfin les patients pris en charge pour des problèmes de soins palliatifs sont aux urgences, alors qu'ils ne devraient pas y être. Logiquement, le deuxième projet qui aurait pu... apporter un plus, c'est le dossier médical partagé. Il y a eu des millions d'euros qui ont été lâchés là-dedans et il n'y a toujours rien. Et alors que ça nous aurait été...
Alors qu'est-ce que c'était que ça, rapidement?
C'était simplement d'avoir sur votre carte vitale votre dossier médical, ce qui permet de contrôler cette espèce de tourisme médical qu'on voit de temps en temps, qui est souvent parfois pathologique, mais enfin, ou qui répond à un manque de réponse de la part des professionnels. Enfin bref, donc le dossier médical partagé. Mais moi, j'apporterai mon témoignage sur la gestion d'un service au quotidien. Et je pense que ce qu'il faut, c'est en fait « small is beautiful ». C'est-à-dire qu'en fait, il faut laisser aux acteurs de terrain la parole et qu'ils puissent s'organiser pour améliorer leur façon de travailler. J'en veux un exemple, toujours sur les soins palliatifs, qu'on a vu arriver il y a 3-4 ans aux urgences de façon beaucoup plus importante qu'auparavant. Et là, on a pris tout le monde, on a fait une étude pour savoir qui connaissait les soins palliatifs, la loi Leonetti et tout ça. On a fait la découverte que tout le monde connaissait le titre exact de la loi. Que les aides-soignants connaissaient parfaitement les soins palliatifs, les médecins un peu moins. Voilà. Et donc, ça a abouti à deux choses. Un, des séances de formation, médecins, infirmiers ensemble, des groupes de parole, et ce qui fait que maintenant, la prise en charge des soins palliatifs aux urgences dans le service
chez
se
vous,
pose
chez vous.
Aucun problème.
Voilà, chez vous, à la Rivoisière, c'est peut-être pas le cas partout.
L'autre chose, c'est que, toujours dans cet esprit de responsabilisation, il y a une chose que l'on fait dans le service, et je crois pas qu'il y ait grand monde qui le fasse, c'est l'évaluation inversée. C'est-à-dire que nos internes, non seulement évaluent tous les trois mois l'ensemble du service, au niveau de l'intégration, de l'enseignement reçu, tout ce que vous voudrez, mais à la fin de chaque stage, évaluent chacun des seniors. Et donc ça, ça recale, là, ça recale les pendules et ça nous permet de progresser, de voir les endroits où on pêche.
Ouais, ça, il n'y a peut-être pas que dans l'hôpital dont on a besoin, de ça. Et ben voilà, sur ces bonnes idées, peut-être pas forcément très compliquées à mettre en place, en tout cas pour les dernières évoquées. Merci beaucoup à tous les trois, c'est la fin de cette émission. Donc je rappelle, il y a Alternative économique, un hors-série qui est en kiosque Santé, l'état d'urgence. Le livre de David Béliard, Notre santé est-elle à vendre chez C'est textuel. Le livre de Nicolas Bellorget, L'hôpital sous pression, c'est aux éditions La Découverte. Et puis vous retrouvez Bertrand Galichon sur le site lacroix.com, son blog. C'est quoi votre blog? Blouse blanche.
Chronique
d'une blouse blanche. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, à tous les auditeurs qui l'ont rendue vivante, et bien sûr à vous trois, Nicolas Bellorget, David Béliard et Bertrand Galichon. Demain, je vous retrouve à 17h pour le Presse Club. Et lundi, nous parlerons de l'arme nucléaire. La dissuasion est-elle encore d'actualité? Voilà, très bonne journée à tous. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur le site internet de RCF.